Bonsoir à tous. Les sauveurs de Notre-Dame à l'honneur, 250 pompiers ce matin à l'Élysée. Lecture et hommage aussi cet après-midi devant l'hôtel de ville de Paris. Alors que la querelle se dessine entre anciens et modernes sur la future cathédrale, certains dans la classe politique appellent à ne pas défigurer le monument. Il y a assez de chaînes en France pour refaire la charpente à l'identique. Reportage dans la Sarthe. Plusieurs groupes renoncent à défiscaliser leurs dons. Vous entendrez Bernard Arnault, le patron de LVMH. Au sommaire également ce soir, Trump triomphant après la publication du rapport Mueller sur l'ingérence russe. On verra ça en détail à Washington. Les dangers des anti-inflammatoires ibuprofène et kétoprofène. Thomas Guénolé, presque à la porte de la France insoumise. Toute la sélection du festival de Cannes, c'est dans un peu plus d'un mois. Et puis dans 20 minutes, on vous retrouve à Rome, Fabienne, pour la suite de ce 18-20 spécial.
Et effectivement, à Rome, où nous avons d'abord rendez-vous avec Emma Bonino. S'il y a une figure de l'Europe en Italie, c'est vraiment elle, et son regard sur son pays et sur l'Europe nous intéresse. Et puis comme à chaque fois, Sébastien, on voyage aussi et on restera dans les pays du sud de l'Europe. On ira faire un tour en Espagne et aussi en Grèce. À tout à l'heure, Sébastien.
À tout à l'heure, Fabienne. France Inter. Ils ont sauvé Notre-Dame de Paris et ils sont honorés aujourd'hui. Les pompiers reçus ce matin à l'Élysée par Emmanuel Macron et décorés collectivement de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement. Vous avez été exemplaires sous le regard du monde entier, leur a dit le chef de l'État. Hommage encore cet après-midi sur le parvis de l'hôtel de ville de l'autre côté de la Seine, presque en face de la cathédrale, à un prélude de Bach, des lectures de Victor Hugo qui a contribué à rendre célèbre le monument, des discours et des officiels qui sont ensuite allés devant le bâtiment, mais aussi bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Des Parisiens et des touristes, Rémi, venus tout simplement saluer ceux qui se sont mobilisés lundi soir.
Oui, et le signe qui ne trompe pas dans la foule présente devant l'hôtel de ville ici, ce sont les applaudissements les plus nourris ont été pour les pompiers, véritables héros du sauvetage de Notre-Dame pour les Parisiens.
C'est à ces messieurs qu'il faut dire merci, donc c'est eux qu'on doit remercier.
Je ne peux pas participer d'une manière, en fait, manuellement pour la construction, mais la moindre des choses, c'est de rendre hommage à ces hommes du feu qui se sont, d'une certaine manière, sacrifiés. Ils ont pris le risque au péril de leur vie.
Sur la petite scène, le ministre de l'Intérieur, la maire de Paris, mais aussi le recteur de la cathédrale Notre-Dame se relaient dans une forme d'œcuménisme, un pont entre sacré et profane que Michel, venu de Perpignan, a apprécié.
J'ai trouvé que chacun avait dit ce qu'il fallait dire et je suis encore un petit peu retournée. Par ce moment et de voir cette foule et tous les gens qui participaient, ça prenait aux tripes. Il y avait des croyants, des non-croyants. Dans ces moments-là, finalement, tout le monde se rassemble.
Y compris des touristes étrangers comme Lorena venue du Brésil. Elle a pris du temps sur ses vacances. C'est vraiment très triste ce qui est arrivé. C'est un monument magnifique, c'est l'histoire, dit-elle. Mais je pense qu'il sera reconstruit et que ça va aller, nous confie la jeune femme optimiste. Le ministre de l'Intérieur, la maire de Paris et le recteur de la cathédrale se sont ensuite rendus à pied à nouveau à son chevet où un chantier très attendu doit débuter.
Et les pompiers seront faits citoyens d'honneur de Paris. Merci Rémi Brancato en direct du parvis de l'hôtel de ville avec Yves Lehorse. Une veillée est organisée ce soir à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre pour la semaine sainte avant Pâques. Elle restera ouverte toute la nuit. Pendant ce temps, la police scientifique poursuit ses investigations dans le bâtiment. Les enquêteurs ont pu regarder la structure et le sommet de la cathédrale. Il reste trois points de fragilité majeurs, d'après le ministre de la Culture, Franck Riester. Le pignon de la nef transversale qui a été étayé, celui entre les deux beffrois et l'angle du beffroi sud dont les pierres ont beaucoup chauffé et elles sont devenues friables. La reconstruction est donc une mission de combat, résume le général Georges Lain, nommé représentant du chef de l'État. Et déjà deux camps se dessinent à ce sujet, ceux qui prônent une modernisation et ceux qui veulent reconstruire à l'identique et parmi eux. Bonsoir Élodie Forain.
Bonsoir.
La tête de liste Les Républicains pour les Européennes, François-Xavier Bellamy. Il était en campagne aujourd'hui à Reims.
À Reims, où le candidat LR, fervent catholique, a tenu à passer rapidement devant la cathédrale, quitte à arriver quelques minutes en retard à son rendez-vous avec les militants. François-Xavier Bellamy, qui dans son discours a d'abord salué l'élan de solidarité autour de Notre-Dame de Paris.
Je vois un signe magnifique dans le fait que tant de Français se soient sentis profondément touchés, ébranlés, en voyant ces images que nous avons tous regardé de la cathédrale en train de brûler.
Une émotion commune, un lien au-dessus des querelles politiques, poursuit-il, mais qui n'empêche pas la critique. Si François-Xavier Bellamy remercie Emmanuel Macron d'avoir lancé une souscription nationale, il est inquiet de la tournure que prend le projet de reconstruction.
Quand le président dit qu'il faut faire un geste architectural pour inscrire la modernité au cœur de cette cathédrale, je crois que justement ce qui fait la force extraordinaire de ce patrimoine, c'est qu'il est d'une éternelle actualité et qu'on n'a pas besoin de lui ajouter quelque chose. Nous ne sommes pas d'abord des bâtisseurs, nous sommes d'abord des héritiers. Il ne faut pas que nos gouvernants soient pris d'un excès d'orgueil. Nous ne sommes pas là comme politique pour apporter notre touche à cet héritage, mais d'abord pour faire en sorte que ceux qui sauront le restaurer puissent mener à bien leur mission.
Un appel à ne pas défigurer Notre-Dame lancé aussi à gauche par Raphaël Glucksmann. Il demande au gouvernement de reconstruire sans détruire l'âme de la cathédrale. Plus direct et sans pincette, le candidat RN Jordan Bardella estime lui qu'il faut arrêter le délire et respecter le patrimoine.
Élodie Forêt pour l'arrière-arrière-petit-fils de l'architecte Viollet-le-Duc. Reconstruire la cathédrale sans sa flèche, ce serait l'amputer. Les dons continuent d'arriver pour la reconstruction. En tout cas, 500 000 euros encore du CIO aujourd'hui, qui souhaite que Notre-Dame soit prête pour les Jeux Olympiques de 2024. Il s'ajoute aux 850 millions d'euros déjà promis, notamment par les milliardaires et de grands groupes. Mobilisation critiquée qui conduit plusieurs d'entre eux à ne pas défiscaliser leurs dons, comme le patron de LVMH, Bernard Arnault. Sa fondation est déjà au maximum de la défiscalisation. Et ces 200 millions d'euros pour Notre-Dame ne donneront lieu à aucune ristourne fiscale. Il l'a dit ce matin devant les actionnaires de son groupe de luxe.
Donc il s'agit d'une fausse polémique et c'est assez consternant de voir qu'en France, aujourd'hui, on se fait critiquer même quand on fait une œuvre d'intérêt général. Donc si vous êtes satisfait comme actionnaire du groupe LVMH du don que nous faisons pour la reconstruction de cette église absolument unique et qui est un symbole éternel de la France, je vous invite tous à aller sur Internet et à faire part de votre consternation, de voir des critiques pour un acte franchement, ou dans beaucoup d'autres pays, on serait plutôt félicité.
Et puis une église éphémère en bois pourrait être construite sur le parvis de Notre-Dame en attendant la fin des travaux promis d'ici 5 ans par Emmanuel Macron. En tout cas, le recteur a proposé l'idée et Anne Hidalgo l'a accepté. Pas beaucoup plus de détails pour l'instant sur ce lieu provisoire qui pourrait accueillir pèlerins et touristes pendant toute la fermeture de la cathédrale. Ce qui est sûr, c'est que si la charpente de Notre-Dame est reconstruite en chêne, comme celle vieille de 800 ans qui a brûlé lundi, eh bien le bois ne manquera pas. Voyez ce reportage au Mans d'Alexandre Chassignon.
Il y a 3,5 millions de propriétaires forestiers en France et beaucoup répondent à l'appel lancé par le syndicat de la forêt privée dirigé par le Sartois Antoine Damécourt.
Tous, ils ont tous envie d'avoir un de leurs chênes qui soit dans la charpente de Notre-Dame. Donc il y a vraiment un élan de solidarité.
Il n'y aura pas de place pour toute cette générosité. Malgré la taille de la charpente à reconstituer, les besoins sont estimés autour de 1300 chênes. Ça semble énorme, mais c'est une paille en comparaison du bois d'œuvre disponible entre propriétaires privés et forêts domaniales. Antoine Damécourt a calculé qu'un seul massif sartois suffirait largement à reconstituer une charpente et sans déforestation.
De Vibray où il y a 2000 hectares de chênes. Si on enlève un chêne à l'hectare, ça ne va pas se voir. Donc de toute façon, c'est les prélèvements normaux d'une forêt normale. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup plus de chênes aptes à faire ça aujourd'hui en forêt française qu'il n'y en avait quand ils l'ont faite à l'origine. Parce qu'à l'origine, les forêts servaient beaucoup au bois énergie. Alors qu'aujourd'hui, les forêts produisent du bois d'œuvre.
Et toutes les forêts françaises sont gérées de façon durable. Quand un arbre est coupé, un autre est planté.
Reportage Alexandre Chassis. De France Bleu Maine pour Inter, l'incendie de Notre-Dame de Paris a-t-il donné des idées à certains illuminés? Un homme a été arrêté hier soir dans la cathédrale Saint-Patrick de New York avec deux bidons d'essence et des briquets. Il est sûr que c'était pour sa voiture en panne. La police new-yorkaise parle, elle, de réponses incohérentes et évasive. France Inter rendra hommage samedi à 18h à Notre-Dame de Paris à travers les artistes qui l'ont célébré. C'est en studio 104 au studio 104 et en direct avec Guillaume Gallienne. Si vous voulez venir en famille assister à cette émission, rendez-vous sur le site maisondelaradio.fr. C'est ouvert. Un nouvel épisode dans l'enquête sur l'éventuelle ingérence russe dans la campagne de Donald Trump en 2016. La remise aujourd'hui d'une version un peu étayée, un peu plus étayée que la précédente du rapport du procureur Mueller. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
On voit avec vous dans un instant ce qu'il y a dans ce rapport de 400 pages. Mais d'abord, un extrait du clip qui a été diffusé par le président américain lui-même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avant la remise du texte en quelque sorte pour préparer les esprits.
No collusion.
There was no collusion.
No collusion.
No collusion.
There is absolutely no collusion.
There's no collusion.
The fact is there is no collusion.
Des extraits de Trump lui-même qui répète depuis des mois qu'il n'y a pas eu de collusion avec la Russie pendant sa campagne. Grégory, vous êtes à Washington. Voilà donc l'une des mises en scène du triomphe de Trump par Trump. Sauf que dans le détail du rapport, c'était pas si clair.
Non, parce que ça y est, enfin, on l'a ce rapport Mueller. Le document fait 448 pages. Certaines lignes ont été noircies pour respecter la confidentialité de l'enquête, mais on y lit pas mal de choses intéressantes. D'abord ceci, concernant les soupçons d'obstruction à la justice. Le procureur dit, si nous étions certains que le président n'avait pas fait entrave à la justice, nous l'aurions écrit. Or, nous n'avons pas pu parvenir à ce jugement. En clair, ça veut dire que Donald Trump n'est pas exonéré de ce délit par les équipes de Mueller. On apprend aussi que le président a pensé à limoger le procureur indépendant. Ma présidence est terminée, je suis foutu, dit-il en mai 2017 dans son bureau de la Maison-Blanche. Donc vous voyez, Sébastien, ce rapport Mueller est beaucoup plus nuancé que les conclusions de Trump et les conclusions rendues par le ministère de la Justice fin mars, ce qui n'empêche pas le président américain de jubiler. C'était il y a moins d'une heure à la Maison-Blanche.
I'm having a good day too. It was called...
Je passe une bonne journée. Pas de collusion, pas d'obstruction. Croyez-moi, une telle arnaque ne doit plus jamais arriver à aucun président.
Et sur son compte Twitter, Donald Trump publie aussi une photo de lui comme une affiche de film, iconographie empruntée à la série Game of Thrones. La légende dit « Game over », mais en vérité, Sébastien, la partie n'est pas tout à fait terminée. En tout cas, pas pour les démocrates qui, très certainement, vont maintenant demander à ce que le procureur spécial soit désormais entendu par le Congrès.
Et on suivra ça toujours avec vous. Merci, Grégory Phillips, en direct de Washington. Les craintes de l'émissaire des Nations Unies en Libye, il parle d'impasse à propos de l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli et doute à un embrasement généralisé dans le pays. Le gouvernement libyen lance un mandat d'arrêt contre lui et suspend sa coopération avec Paris. La France, accusée de soutenir Haftar, réaffirme son soutien au gouvernement légitime libyen. Le Portugal décrète 3 jours de deuil national après l'accident de car d'hier à Madère, tombé d'une dizaine de mètres dans un virage. Il y a 29 morts, 29 touristes allemands. Le ministre allemand des Affaires étrangères est arrivé sur l'île aujourd'hui. Ce sont des médicaments que nous utilisons presque tous et très souvent, en tout cas les plus vendus, que l'on prend parfois sans vraiment faire attention à la notice quand on a de la fièvre, mal à la tête, les anti-inflammatoires ibuprofène et kétoprofène. Eh bien l'agence du médicament appelle à la vigilance. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Il y a des risques, dit-elle, de complications infectieuses graves.
Oui, l'an dernier, 2 centres de pharmacovigilance à Tours et Marseille ont réalisé une enquête nationale sur ces anti-inflammatoires. Sur plus de 15 ans, 337 cas de complications infectieuses étaient survenus avec l'ibuprofène, 49 avec le kétoprofène et encore n'est-il question que de cas graves avec hospitalisation, séquelles. En fait, ces médicaments, lorsqu'ils sont pris par exemple pour des problèmes respiratoires, des maux de gorge, peuvent, lorsqu'une bactérie est en cause, servir comme d'un engrais et multiplier l'infection. Le professeur Joëlle Micalef est directrice du centre de pharmacovigilance d'Aix-Marseille et elle a co-réalisé cette étude.
On a pu voir que des patients étaient sans facteur de risque particulier, sans maladie sous-jacente, et bien faisaient des tableaux très graves d'infections pulmonaires qui nécessitaient des hospitalisations. C'est ce qui nous a alertés. Il y a aussi des infections de la peau très graves qui sont d'habitude rares. Est-ce que être amélioré de quelques heures vaut le coup de prendre un risque qui vous conduit à l'hôpital pendant 10 jours d'hospitalisation et fait le lit de complications infectieuses beaucoup plus graves?
Alors, sans interdire ces médicaments, il convient donc d'en faire un bon usage. Par exemple, ne pas les prendre si on soupçonne une infection à streptocoque, pas non plus en cas de varicelle, pas 2 de ces anti-inflammatoires en même temps. Pour des symptômes sans gravité, il est recommandé de privilégier le paracétamol et de ne recourir à l'ibuprofène ou le kétoprofène qu'après avoir pris conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien.
Les conseils de Daniel Messager. Merci Daniel. Une crise de plus et un nom de moins, sans doute sur la liste de la France insoumise pour les européennes. Celui de Thomas Guénolé en 14e position. Le politologue est accusé de harcèlement sexuel par le parti. Lui dénonce l'autocrate Jean-Luc Mélenchon. Anne-Laure Bouzige.
Une dictature, un simulacre de démocratie, une machine autoritaire. Thomas Guénolé sort les crocs. Le système mis en place par le leader de la France insoumise repose, dit-il, sur un système en toile d'araignée, avec au centre de cette toile Jean-Luc Mélenchon en autocrate. Jean-Luc Mélenchon qui prend toutes les décisions importantes en symbiose avec son ancienne communicante Sophia Chikirou. Le politologue pointe aussi du doigt, je cite, les risques d'effondrement judiciaire de la France insoumise.
Les gens qui croient être adhérents de la France insoumise, en fait, au sens juridique, ne sont pas adhérents de l'association. Ils se sont juste inscrits à une plateforme numérique. Ce qui empêche donc un militant France Insoumise de pouvoir utiliser les statuts pour faire valoir ses droits d'adhérent ou pour éventuellement aller en justice parce qu'il se passerait quelque chose qu'il estimerait inacceptable dans le mouvement.
La France Insoumise se dit choquée après ces attaques totalement infondées. Le parti assure que Thomas Guénolé n'a jamais exprimé de telles positions auparavant. Jean-Luc Mélenchon stupéfait sur Twitter. Décidément, rien ne me sera épargné, écrit-il. Le politologue, lui accusé d'harcèlement sexuel, évoque un engrenage de méthodes accusatoires staliniennes. Thomas Guénolé assure qu'aucune autre grande force politique n'a poussé le fonctionnement autocratique et antidémocratique aussi loin.
Thomas Guénolé devrait être rayé de la liste LFI pour les européennes. Le parti est réuni en ce moment pour entériner son départ. Un arbre est tombé cet après-midi dans la cour d'une école primaire de Bessens dans le Tarn-et-Garonne. Trois enfants ont été écrasés par le marronnier et sont blessés. L'un d'eux a pu se dégager, mais deux sont en urgence absolue. L'établissement restera fermé demain. On ignore les causes de l'accident, mais il y a beaucoup de vent en ce moment sur la région. Des classiques et des palmes pour le prochain festival de Cannes. 19 films en compétition, dont les derniers Almodovar, Ken Loach, Terrence Malick, Xavier Dolan, les frères Dardenne, le film d'Arnaud Desplechin aussi. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Du beau monde, sans doute de beaux films aussi, on verra ça. Et puis certains qui sortiront en salle pendant le festival.
Voilà, une bonne nouvelle pour les fans d'Elton John par exemple, qui pourront profiter en même temps que les festivaliers du biopic Rocketman sur les écrans le 16 mai. Tout comme le film de Jim Jarmusch programmé déjà dans plus de 400 cinémas pour une soirée spéciale incluant la cérémonie d'ouverture. Un festival placé cette année sous le thème de l'amour et de la révolte, dans lequel on croisera des zombies, des chômeurs, des migrants, des Américains, Ira Sachs, Terrence Malick, et s'il est prêt à temps, le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.
On a hâte de voir ça. Finalement, quand même, c'est un peu comme une grande librairie.
Avec d'un côté les têtes de gondole, les habitués de la croisette, les frères Dardenne, Xavier Dolan, Ken Loach, Pedro Almodovar, de l'autre les découvertes, les premiers films, les nouveaux venus dans la compétition. Chez les Français, Justine Triet, Céline Sciamma, pour une sélection cette année très paritaire, aux côtés d'Arnaud Desplechin et du jeune réalisateur Lajli, qui présentera un tout premier film, Les Misérables, tourné à Montfermeil, sur le thème de la banlieue.
Agnès Varda, qui est sur l'affiche cette année, se battait pour que les femmes soient à Cannes. Qu'est-ce qu'il en est cette année dans cette sélection?
Eh bien, on se souvient de cette montée des marches 100% féminine l'année dernière, du collectif 50-50. Des engagements ont été pris pour davantage de parité dans le comité de sélection, dans la composition du jury qui sera dévoilée prochainement, et même sur les écrans. 13 réalisatrices en sélection cette année. Thierry Frémaux, le délégué du festival s'en félicite.
Regardez la sélection française, il y a 4 films en compétition, 2 réalisés par des hommes et 2 réalisés par des femmes qui d'ailleurs entrent toutes les deux pour la première fois. C'est ça, je crois, le signe des temps. Après, on n'a pas pris la décision avant de commencer le processus de sélection de dire on va faire très attention. Non, ce sont les films qui se sont imposés. Il y a des réalisatrices, oui, il y a des très bonnes réalisatrices aussi.
Et puis rapidement, pour terminer, un clin
ça
d'œil.
Quelque chose.
On ne sait pas encore si Gérard Darmon, Alain Chabat s'exécuteront pour faire plaisir à leurs fans qui avaient lancé une pétition. En tout cas, c'est confirmé, la Cité de la Peur sera bien projetée en version restaurée pour célébrer les 25 ans de sa sortie.
Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi.
J'espère qu'ils vont danser sur la croisette. Merci Corinne Pellissier. La nouvelle suite d'Un homme et d'une femme. Un homme et une femme, c'est ça le titre d'ailleurs, de Claude Lelouch sera aussi projeté hors compétition, toujours avec Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant. Une palme d'honneur sera donnée à Alain Delon. Cannes, 72e édition, c'est à partir du 14 mai. Et puis, vous le savez depuis ce matin, si vous êtes des fidèles d'Inter, notre chaîne, votre chaîne est désormais la première radio de France. Et c'est historique, le mot n'est pas trop fort, puisque c'est la première fois depuis qu'on mesure les audiences de la radio. C'est donc une grande fierté qui nous oblige à faire toujours mieux. Un grand merci à vous, auditrices et auditeurs de France Inter.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Une journée plutôt ensoleillée demain.
Oui, entre les côtes de la Manche, le Poitou-Charente jusqu'en Alsace et à Rhône-Alpes, la matinée se passera sous le soleil. L'après-midi restera bien ensoleillé, mais des développements nuageux donneront parfois un temps plus variable entre le Jura, la Lorraine et l'Alsace. Les éclaircies resteront tout de même belles, mais des averses ne sont pas exclues sous les nuages les plus menaçants, avec même quelques orages isolés. Et puis en soirée, deux petites averses pourront aussi déborder vers les Ardennes, l'Est parisien et la Bourgogne. Sur le sud du pays, après une matinée sous un ciel voilé, le soleil brillera davantage l'après-midi. En revanche, au sud de la Garonne, les éclaircies seront plus timides. Le début de journée sera même parfois bien gris.
Et les températures grimpent encore.
Oui, on gardera des maximales presque dignes d'une fin juillet ou d'un début août, avec même quelques degrés de plus par rapport à aujourd'hui. 22 degrés pour Metz, Besançon, Valenciennes, Calvi et Auch. 24 degrés à Paris, Quimper, Orange et à Istres. 25 degrés pour Nantes, Lyon et Bordeaux. On ira jusqu'à 27 degrés du côté de Vichy. Ambiance parfois un peu plus fraîche sur les plages de la Manche et de la Méditerranée. 17 degrés pour Calais, 18 degrés à Perpignan et 19 degrés à Cagnes-sur-Mer. Et puis le vent d'Autan va continuer de souffler jusqu'à plus de 100 km/h. Et de bonnes rafales sont aussi attendues sur le sud du Massif central et entre la Corse et les côtes provençales.
Merci Sébastien Léas.